Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Nous avons décidé de niquer la police des corps et la littérature officielle. Cette phrase, on la trouve dans la lettre de RERQ, dans un livre absolument formidable édité aux éditions de l'Arche qui s'appelle « Lettres aux jeunes poétesses ». Ce livre, ça a été une claque de poésie, une claque de sororité, une claque de transmission, une claque d'amour, une claque ample et vaste qui a fait du bien au cœur, à l'esprit, au corps, au monde. C'est avec une grande joie qu'on vous propose ce nouvel épisode. Ça va être beau, ça va être doux, ça va être fort, ça va être puissant. De la poésie dans vos oreilles. C'est parti.
L'Affranchi Podcast. La librairie. Chez vous.
Je vais faire un tour de comptoir, hein, n'est-ce pas? Élodie Petit, Etta Insver, Rebecca Chaillon, Claire Finch, Aurélie Olivier, et nous avons Amandine Berger qui est quelque part dans la salle.
Là-bas.
Là, voilà. Donc c'est toute la fine équipe de ce livre absolument formidable que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire ou que vous allez dévorer à la suite de cette soirée. Donc, Lettre aux jeunes poétesses, édité chez la fabuleuse L'Arche Éditrice, parce que moi je vote pour que ce soit L'Arche Éditrice, non pas L'Arche Éditeur. Voilà, chacun ses combats dans la vie. Et donc, toute cette soirée commence par des lectures. Donc, c'est parti.
On va faire moi, et ensuite Étienne, Elodie et.
Et Lettre aux jeunes poétesses.
Ouais. Donc, je vais lire un très court texte qui vient d'une pièce. Donc, désolée parce que c'est. En anglais, pour donner un peu de contexte, c'est dans Alien 3, je crois, il y a cette scène avec Ripley qui est dans le robot et qui fait un fight avec le gros alien. Donc c'est une scène un peu d'amour entre Ripley et le robot. It's after hours, so Ripley and the robot are just hanging out. They're not lovers yet, but there's some kind of sexual tension in the air. Every time Ripley climbs into the robot's hard belly, there's a strange electrical tension. There's a literal electrical tension, too, because the robot runs on electricity. Ripley finds this so sexy. She's very into partners who can shock. Ripley asks the robot, Ripley, but if you could choose, I mean really choose, really go to the edge of your desire, and then maybe even one step more, what color of eyeshadow would you wear? I see you in green. Not forest green, but like a grungy kind of green, you know, like moldy. She stops speaking briefly because a huge fat mosquito has sucked up the blood from the top of her hand and is now buzzing around her ear. All mosquitoes who bite are women, so it's unfeminist to kill them. The end of the world will be brought about by female insects. They will feed and feed and feed. Robot. I hate green. Ripley, un peu flirty. Oh, really? But green goes so nicely with your paint color. Robot. Non, Ripley. Je chouine un peu cette fois-ci. You wouldn't wear it, even for me? Robot. No. Ripley. Elle chante tactique. Elle a décidé que si elle va être aimée, elle doit montrer son soi le plus authentique. I could see you in green, or in aqua, or a teenage kind of sparkly blue, an aquamarine that goes violet at the edges, and purple that goes into twilight in the color of a black, black hole.
She stares at the robot, which is hard, as she's inside of the robot. So she's staring all around. She wets her lips, seductively. She wets her lips a little too much, on accident. She drools. The drool falls into the robot's control panel. The control panel gives off a shower of sparks and starts smoking. The control panel directly shocks Ripley. Ripley. Oh, that's nice. Yes, just like that. Robot. Ripley's desire, like all drool, is too much for a world inhabited by cold machines.
Moi, je continue avec un poème qui s'appelle « The category is phone sex ». On a 15 ans de différence. Il y a toute la Gen Z qui suce virtuelle allongée entre nous. Des selfies, son make-up, ses seins, ses sœurs, sa dernière année aux Beaux-Arts, son cul, entre nous, pour réduire la distance. J'aime l'écart entre ses dents. On ne se connaît pas. C'est la toute première fois que je date sur Insta. La première fois que le monde est avalé en entier par son ombre. La première fois que je commande un truc en ligne, des chaussettes Vans qui ont la couleur irisée d'un écran. F me tatoue, un petit signe féminin, une larme, désir, partout. Mon adolescence me tend un cliché de moi qui fait un V face caméra. V comme vite, elle n'aime pas les quickies. Confinée à 7, mon intimité est minutée. V comme elle se caresse toujours sur le ventre, moi de 3/4 sur le dos. Comme le manque de sexe me fait vriller, et Victoire, comme le striptease de son prénom. Viens, emoji banane. Sur mon podium intérieur, c'est elle, mon numéro uno. Je la caresse, soft boy dans le miroir, en short umbro. The category is phone sex. Phone sex. Phone sex. Je branle sa voix, je branle des images pixelisées. Je me branle de nuit debout dans la cuisine appuyée contre le plan de travail. Less cooking, more cruising. C'est mon motto. On est timide en vidéo. Je propose une virée en solex, un champ de jonquilles, contre un arbre. Elle me raconte qu'elle me femme top. Elle fait la playlist de notre prochaine rencontre. Use my body. On se donne rendez-vous dans le deuxième rêve à gauche après le 69e texto. I'd like to see you. Je me demande, combien on est à improviser des formules relationnelles? C'est l'apocalypse? Une fourmi court sur un cul au soleil? Je me perds dans la contemplation de cette offrande. Est-ce qu'on baidera bientôt les animaux? Je me demande si la dépense imaginaire de tous ces fluides pouvait se transformer en moula pour les hôpitaux. Je me demande si toute cette eau va faire monter le niveau des océans et faire pousser les cheveux de toutes les créatures. Je me demande, est-ce que tu aimeras l'odeur de ma sueur? Est-ce que ta bouche aura un goût de satellite irisé? Toucher ta nuque, ton rire, me fera vriller en vrai? Est-ce que lécher ton ventre, lécher le ciel? Est-ce que dehors nos corps s'emboîteront?
Pour continuer un peu sur l'amour, j'ai réécrit le banquet de Platon. Alors, je l'ai intitulé « Baise, salive, baise, alcool, baise ». Je vous lis juste, je vous présente trois des participantes, une petite intro. Baise, salive, baise, alcool, baise est le récit d'une fête entre poètes homosexuels. Toutes sont à moitié nues et passablement éméchées. Elles échangent sur leurs expériences de l'amour et de l'anxiété. Aucune n'est similaire à l'autre. Baise, salive, baise, alcool, baise est une adaptation libre et dramatiquement très élaborée de cette soirée mémorable. Participante. Socrate. Produit des chocs émotionnels sur celle qui se trouve en contact avec elle. Est extrêmement sexy et allumée. C'est une originale, une intellectuelle drôle et charismatique. Tout le monde veut la baiser. Elle parle fort seulement quand c'est nécessaire. Sinon, elle a la discrétion de son intelligence. Elle n'a rien à prouver. Elle n'est jamais éteinte, juste en veille. Elle peut amener celle qu'elle rencontre à envisager un changement de vie radical. On s'attache facilement à Socrate. Pausanias, surprenante et solaire, elle aime tous les corps et surtout l'amour libre. Amante d'Agathon, grande défenseuse de la pédérastria, collectif de défense homosexuelle pour l'amour des trans, des gouines et des pédés. Militante TPG, elle est libertaire et a le feu de ses convictions féministes. Elle est sensuelle et aime jouir de toutes les ouvertures. Elle fait l'apologie de toutes les formes possibles de sexualité et trouve du politique au fond de chaque culotte. C'est un cœur d'artichaut et une briseuse de ménage lesbien. Phèdre, belle et mystérieuse. Elle partage ses pensées comme on dépose un ecstasy dans la paume délicate de l'aimé. Brillante et extraordinaire, adolescente d'éternelle, sans genre et sans âge. Elle maîtrise tout ce qu'elle touche et à la finesse de ses doigts. Elle maîtrise tout ce qu'elle touche et à la finesse de ses doigts. Elle est drôle, raffinée, passionnée d'utopie et de développement personnel anticapitaliste. Elle n'est pas facile d'accès, mais encline aux rencontres et aux discussions mystiques qui ressuscitent les mortes. Ses yeux d'eau actionnent immédiatement ta poésie.
J'hésite. Je vais lire un extrait de Pizza Porno, qui est notre fanzine de petites annonces en collaboration avec Céline Le Gouaille, qui est une artiste plasticienne.
Oui, voilà. De vraies petites annonces, vous pouvez répondre.
Voilà, on a une adresse mail pour nos petits répondre, d'ailleurs. Sur nos petites annonces. Évidemment, j'ai fait la grosse annonce, moi. Ouais. Donc, l'annonce numéro 15. Animal lactaire non vegan. À mamelles charnues mais tombantes, façon gants de toilette propre. Cherche main solide pour soutien-gorge humain. Traite à 17h chaque jour. Cherche main sale pour faire de ma peau un torchon brûlant. Main menue pour couvrir 10% de ma surface de fesses. Crocs autorisé dans la partie grumeleuse. Main rugueuse, ayant exercé la plomberie plus d'une fois. Doigts tendus, détendus, démontables, rétractables, gogo gadget au poing. Doigts humides et sensibles, bien accrochés. Ongles permis s'ils sont laqués comme des canards. Cherche main d'avenir aux lignes fortes et qui promettent un destin palpitant plein d'aller-retour en Ouigo pour s'aimer à distance. Main non susceptible qui accepte de se voir remplacée par des jouets sexuels au nom de voitures de course ou par des butternuts selon la saison. Main organe et paume amplifiée pour sentir mon cœur battre en dedans. Main qui roule de l'herbe dans des feuilles. Main waterproof. Réceptacle à jouir quand je sors de ma prison mentale. Main de milf déconstruite. Main carnée en contraste. Main bavarde, signant sur mes étendues. Main muette, main rythmée. Main assurée à Niort et non sinistrée par d'autres usagers, usagères. Main gauche, avec annulaire dispo, sachant écrire des vœux d'amour éternel. On lit le nôtre d'abord. C'est plutôt.
C'est l'Espace Girl.
C'est l'Espace Girl. Alors, tu peux nous faire l'Espace Girl?
If you want to be my lover,
yes.
With my friend.
Yes.
Making my forever. Friendship never ends.
If you want to be my lover. C'est mieux qu'enceinte.
En fait, ça sert à avoir une enceinte.
C'est mieux en live.
Je vous accompagne où vous voulez, pas de problème.
Génial. Ah, moi,
je fais. Boombox. C'est
bien. Bon, on lit direct.
Oui.
Chers lecteurs, lectrices, RERQ est un collectif qui écrit sur les sexualités, les corps, la salive, les nuques moites, les joggings mouillés de cyprine, la sueur, l'attente, la langue et ses potentialités fautives et sales. Nous sommes 6, nous sommes têtus, nous avons décidé de niquer la police des corps et la littérature officielle. Nous n'avons pas respecté la consigne. Voici donc une constellation de lettres, lettres mantra, lettres conseils, lettres d'expérience, lettres d'amour, Puisses-tu y trouver des mots qui te parlent? Les fées du cul qui veillent sur toi.
Chère littérature érotique, marginale, mise au banc d'un système huilé et chiant, lieu de la subversion ultime et de l'écriture sexuelle, fief des pirates et des mauvaises filles, de toutes les expérimentations liées au réel et à sa propagation. Prends au sérieux ce qui fait sexe. C'est là qu'on enferme ta langue et que tu dois apprendre par toi-même.
Chère silicone, sans toi, j'aurais sans doute perdu mon imagination et arrêté d'écrire. Chère RSA, je me souviens la première fois que je t'ai rencontrée. Comment je pensais que tu me comblerais. Comment tu réussissais encore à m'apaiser mieux que personne. Je sais qu'on est trop codépendants, que cette relation amour-haine est sans doute vouée à l'échec. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sorte d'espoir. Je rêve encore que tu puisses changer, m'aimer sans condition. Tu ne me suffirais jamais, mais j'ai encore besoin de toi. On pourrait peut-être lire La salope éthique ensemble. Histoire que tu ne me quittes plus en découvrant toutes mes infidélités, droit d'auteur pas déclaré ou pegging toujours protégé.
Chère Union, revue pornographique hautement littéraire, coincée dans le placard secret du daron entre les vinyles. Je dis daron pour que s'il me lit, il ne comprenne pas. C'est d'abord parce que le sexe s'infuse par des récits du Cap d'Agde, par des chibres, des vies, des cons, de l'échangisme, du cochon et de la truie, que mon corps, que mon sexe, est étroitement pénétré de vocabulaire qui déborde d'être lu en gras. Je suis rédactrice en chef maintenant, et je suis chaque fois agréablement surprise de mon muscle capable de soigner les mots scotchés dans mon crâne d'enfant. Comme l'enfant, j'articule de nouveaux verbes.
Chère quatrième génération, t'es un des premiers livres que j'ai réussi à lire en français. Je m'asseyais là avec un dictionnaire et je cherchais des mots comme « entrejambe » et « douche dorée ». Et mot à mot, je trouvais le chemin vers une nouvelle langue française dans laquelle je pouvais me voir.
Cher SM, voici une carte postale du front. Ma vie ne s'est pas transformée en blockbuster. Je continue de lutter contre les vaisseaux pouraves du passé, les pièges spatio-temporels et les invasions sentimentales, et nos séances me manquent. Mais quelque chose a changé. Je respire mieux. J'ai terminé l'écriture de mon premier roman. Dans cette histoire-ci, la princesse se sauve toute seule, la psychanalyse est un bouclier argent et le dragon finit par cracher des poèmes. Dans cette histoire-ci, il y a un personnage, coach, qui vous ressemble. Chère maman, je ne réponds plus à tes lettres depuis 2 ans. Ce voyage-là, devenir soi-même, ressemble à un aller simple Berlin-Lisbonne dans la soute d'un Flixbus. Je garde mes larmes pour les documentaires animaliers et les comédies familiales. J'ai de la tendresse pour notre échec aujourd'hui. Je me souviens, m'endormir tous les soirs sur un livre ouvert, de toutes petites mains, un tout petit cercle de lumière, les rêves de ma sœur flottant très grand autour, une garenne d'images, nous, moi, immense dans le futur et flou. Je me souviens les livres de cette enfance et tous les livres d'après, comment j'ai appris à écrire en lisant, comment je me tiens à présent vivant, vivante, moi-même, dans l'écriture. Tu ne crois peut-être pas, mais je t'aime.
Cher poil sous les aisselles, j'aimerais vous écrire un poème.
Cher poème, hâte-toi, souffle-lui dans le cou, sous cette boucle d'oreilles pédée, entre les cuisses, à travers le portail en guimauve, en latex de ses rêves. Guest star dans les films où Yael guette une Gwyn téméraire, un baiser. Monte dans le roller coaster de ses premières fois, crouse ses utopies et ses ennemis, embrasse ses intentions, excite son langage et contamine ses relations. Vivifie le récit qui se forme sous sa peau, ses doigts, ses yeux, à l'écran. Inspire la jeune fille. Donne-lui de quoi aimer son ombre, la folie de son corps, son pouvoir très ardent. Fais-lui sentir que tout est possible, tout, qu'elle ne désespère pas.
Cher cinéaste, chaque fois que tu me fistais, je pensais que au montage littéraire. On faisait de si beaux textes ensemble.
Cher mémé Lulu, tu m'as fait grandir avec Colette et recopier mes poèmes de gosse à la machine à écrire pour les envoyer à des éditeurs. Tu m'as appris à lire avant l'heure de l'école et m'as donné l'écriture à aimer. Si tu étais encore là, je pourrais te dire que j'en ai fait une pratique spirituelle, une méditation en acte. Mais je n'ai jamais osé te dire, te donner à lire un seul de mes romans, parce qu'il parlait trop de sexe, trop crûment. Je te demande pardon. J'ai longtemps cru que ce que je faisais n'était pas vraiment de la littérature.
Cher libraire, qui m'a montré comment utiliser un strap-on, je me branle toujours sur les poèmes obscurs et je stocke mes sex toys à côté de ma collection de Virago Modern Classics.
Cher écrivain Gwyn, tu es badass et très puissante. Tu échappes au traitement mortifère d'une littérature pour les hommes. Tu es débarrassée, vaillante, forte, en dehors du marché. Profites-en pour parfaire une littérature qui explose gentiment dans toutes les mains hétérosexuelles. Fais éclater les foyers littéraires. Pose des petites bombes menaçantes, poétiques, vives. Pelle, auteur PD Trans Dyke, poème soufflé.
Chère santé mentale, nous deux, c'est un peu comme la chanson de Jeanne Moreau. On s'était trouvés, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est reperdus. Tu me fuis, je te suis, en tango mortifère, quand je croyais innocente que ces stratégies ne valaient que pour la drague au lycée. J'ai bien compris maintenant que tu ne m'appartiens pas et que je suis sans doute trop possessive avec toi. Mais avoue, lâcher prise dans ce genre de relation n'est pas si simple. Malgré le yoga et les anxios, reste encore un peu, STP. Sans toi, mon cerveau fait de la brume et c'est la chute intérieure. Je m'accroche aux mots comme des branches qui casse ou ploie, trop souple, et ça continue de dégringoler malgré tout. Il faut alors beaucoup de pages pour faire un matelas en cas d'atterrissage sévère. Alors, chers auteurs, auteurices, qui ont amorti tant de mes chutes dans les enroulés de vos phrases, merci.
Cher patriarcat, désolé, on t'a ghosté, t'as vu?
Cher auteur, PD Transdyke poème soufflé, cher signes immiscés, chers romans homocryptés, chères évidences dispersées. Il paraît que c'est mon tour maintenant. Chère autrice Gwyn, en avais-tu conscience? En as-tu encore conscience, mon besoin de toi, de nous, d'y elle bientôt, car c'est ensemble qu'on se porte. Chère autrice Gwyn, inconnux, à venir, vos poèmes et vos regards moites dans ce bar où on se retrouvera encore. Avec tendresse, écrivain Gwyn.
Cher toi, je ne suis pas une bonne fée, je ne peux pas te faire un don. Je ne suis pas ta mère, ni ton père. Je n'ai que ma bibliothèque à te léguer. Je ne suis pas coach de développement personnel, j'aurais du mal à t'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Je peine aussi. Je ne suis pas Dieu, ni Starhawk. Je manque d'agency et de rituels magiques pour métamorphoser le réel pourri. Mais en tant qu'adelphe, en tant qu'amant, amante, potentiel, exponentiel, en tant que camarade, rhizome parmi les taxons de la théorie française, depuis loin du centre, nu et heureux, heureuse dans une forêt de hêtres et de jacinthes alliées, je peux te confier un secret. Il est taillé dans le meilleur des bois, en cas d'urgence, pour construire un feu. Ne sois surtout pas ce con, un cerf qui de droit attend de toi.
Chère dépendance affective, moteur de nos poèmes amoureuses, cher René Vivien, chère flamme que l'on déclare avidement, la langue amoureuse épuisée, envolée, précieuse et Rolande Barthes. Écrire au féminin vaut mieux que le neutre, soit radical pour être entendu.
Chère agresseuse sexuelle, je suis toujours vivante, justice nulle part, que mon écriture te hante pour toujours.
Chers amis, écrivez ensemble, organisez-vous des temps d'expérimentation textuelle, lisez-vous des trucs à haute voix, emmêlez vos langues, organisez-vous. L'écriture n'est solitaire que dans le mythe du bon poète. En vrai, ça se fait toujours aussi à plusieurs. Chère langue bâtarde, en devenir sans peur, au plus près de vos creux et de vos mains mouillées, vos porte-monnaies vides, vos tenues de reine, la littérature est endormie. Réveillez-la, réveillez-vous, réveille-moi avec ta langue. Viens chercher les histoires sombres, crache-les dans ma bouche. Écris dans un petit coin de ton billet paille à quel point tu tiens au renversement. Danse, sus, aime goulûment.
Cher Q, je n'aurais su t'écrire sans le désir divinatoire d'Etaine et nos sessions gym avec Cindy Crawford. Sans les likes à chaque phrase de Claire, fascinante, chevelure fluorescente, sortie d'un Liechtenstein. Si je n'avais pas lu Insurrection de Wendy quand j'étais un bébé Gwyn. Si je ne l'avais pas vu avaler dans son sexe une pomme et un œuf. Si je n'avais pas été terrifiée par Camille qui regarde l'amour puis déglutit mon jarret de porc en priant pour rester végane. Si je n'avais eu les tétons qui pointent quand ses poèmes Elodie lit.
Chère voyante, en lâchant la crème fouettée de ton cou, après cette performance où tu manges les ingrédients crus pour faire un gâteau, je me suis rendu compte que les mots ont un goût et une texture, que le corps peut faire explosion dans le temps, et que je vis toujours dans le potentiel ouvert par tes mots.
Chère insomnie, sur fond de clopes, sur fond d'arrachage de cheveux crépus roulés en boule, sur fond de culpabilité, sur fond de chanteuse déprimée, sur fond de cubis de rhum vieux, sur fond de dizaines d'onglets ouverts sur des sites où des pensées m'ont découvert, sur fond de fin d'onglets de vache, sur fond de quinte de bâillement, sur fond de peur de mourir, cher toi. Je ne laisserai pas mes cernes d'écriture m'empêcher de te déclarer une flamme. C'est la nuit que j'écris. Grâce à toi, dompter le jour qui s'échappe entre mes doigts, qui m'échappe dans ma culotte. Point. Final.
Cher Cathy à cœur, tu m'as tout permis.
Cher professeur qui a dit que les écrivains, écrivaines queer meurent seuls et obscurs, lol.
Doudou moins, chimbé raide, pas molly. Mon chéri, tiens bon, ne mollis pas.
Signé RERQ.
Rebecca, tu souhaitais...
Ben, j'ai peur que le temps soit court. Mais après, si vous réclamez grave, je peux le faire. Mais...
Je réclame.
Ça va aller vite.
Ta Picardie est-elle toujours verte? Ton catalogue La Redoute te fait-il toujours rêver dans les toilettes de ta maison dans le quartier des Cheminots à Beauvais? Tes parents pensent-ils toujours que tu te drogues et te prostitues parce que tu portes de longues tresses rose fluo? Es-tu toujours délégué de classe? Et tes bulletins sont-ils toujours parsemés de « assez bien » et de « Rebecca vit sur ses acquis » Et tes rédactions, commentaires de texte, dissertations, sont-elles toujours accompagnées d'une phrase rouge exclamative liée à la clarté, à l'organisation de la pensée? D'ailleurs, as-tu toujours ce système de récompense? Un paragraphe écrit, une goulée de rhum volée dans l'immense armoire en bois de ta mère. Un paragraphe écrit, un bout de viande prélevé dans la sauce froide figée de la cocotte de ta mère. Un paragraphe, des larmes de douleur. Comme ça, des nuits entières sur la table du salon, sur fond de télé. Texte que tu finissais pendant ton trajet de 45 minutes de TER pour aller au lycée et aussi un peu sur le banc de la cour et aussi un peu sur le coin de la table de philo. Fais-tu toujours cela ? As-tu toujours envie que le John de 1978 s'extirpe des bandes magnétiques de ta VHS de Carrie au bal du diable pour t'embraser et te dire que tu es la seule qu'il veut? Espères-tu toujours que ton hamster prénommé Travolta soit une interface de communication avec la star de la scientologie? Toujours et encore, engranges-tu des images? La télé est-elle ta meilleure alliée et peux-tu lâcher le coup de ta sœur? Sache que tu aimeras plus ta sœur que la télécommande un jour. Tes autres frères et ton père sont-ils toujours aléatoires? Pries-tu toujours les psaumes sans les comprendre? Lis-tu toujours à haute voix en classe sans comprendre ce que tu lis? Toujours et encore, dévores-tu la littérature américaine de ta mère sur des filles captives, violées, de familles bourgeoises, incestueuses et racistes qui vivent dans des manoirs? Jalouses-tu les familles blanches autour de toi? Complexes-tu toujours et encore de ton manque de culture, de ta non-minceur, de ta noirceur, car personne ne veut t'embrasser sous le préau? Penses-tu encore et toujours que tu n'existes pas vraiment, qu'on ne te verra pas si tu n'allumes pas le fameux lampadaire. Ma chère Barbie noire, car tu décides un jour que ta vie sera d'un rose qui ose et que les Barbies noires font le poids, ont le look et les désirs qu'elles veulent. Chère BN, donc. Je me ressaisis car tu me fais écrire dans l'urgence cette lettre sur laquelle je pleure. Heureusement, les claviers ne meurent que des cafés renversés, les larmes restent sans danger. Je voudrais te dire, de là où je suis et sans vouloir tout te révéler, que ça va aller. Quand tu veux écrire, tu peux.
J'arrête là, comme ça on sait pas ce qui va se passer.
Merci beaucoup pour ces moments de lecture, d'émotion. On aurait envie de vous faire lire absolument tout le recueil. On aurait pu prévoir ça, en fait, ce soir aussi.
Un marathon.
C'est ça. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que je vous ai choisi. On m'a dit, mais quelles sont tes lettres préférées? Et donc, j'ai dit la lettre de Rebecca Chaillon et les lettres de Herbert Lejeune. Donc, aujourd'hui, deux personnes sont manquantes. Il faut quand même le préciser. Donc, Wendy Delorme et Camille Cornu, qui font partie de RVRQ. C'est pour ça, en fait, que je voulais vraiment, Rebecca, que tu puisses lire aussi cette lettre qui nous fait entendre ta lettre aux jeunes poétesses et en fait ta lettre à toi-même, puisqu'on le comprend assez vite, tu te l'adresses. Et c'est une lettre qui m'a beaucoup émue. Merci pour ça, parce que c'est toujours des moments... Enfin voilà, quand on est ému par la littérature, c'est, j'ai l'impression, les plus belles émotions. En fait, ce qui est touchant dans vos écritures, c'est qu'il y a un champ des possibles absolument immense et indéfini, en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut tous et toutes s'y retrouver, se découvrir et aussi s'interpréter, enfin en tout cas se dépasser sur des choses qu'on n'aurait pas eu l'habitude d'entendre, de lire, etc. Donc là, c'est une question globale, donc c'est pour tout le monde. Quel est votre rapport à l'écriture et dans quelle mesure, en fait, cette demande d'Aurélie d'écrire une lettre a été... Enfin, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous, cet endroit-là de « Allez, on y va, on écrit ».
qui commence ?
Je peux commencer parce que du coup, j'ai...
Vas-y, ouais.
Parce que, enfin, Aurélie, là, t'as pas raconté ce cadre, mais d'abord, ça a été une invitation dans le cadre du Festival Extra, au Centre Pompidou, à Paris. Et du coup, l'invitation était à 9 ou 10 autrices et auteuristes, enfin, voilà, d'écrire cette lettre. C'était pendant le confinement, pour ma part, je crois bien. Et où j'étais complètement isolée et loin d'endroits où on passait des commandes, où il y avait de l'activité. Donc j'ai à la fois béni et maudit Aurélie de me donner une mission dont je savais que ça allait, pas tant pour la quantité, mais pour non plus pour la qualité, mais pour en tout cas l'endroit où ça allait me creuser, que ça allait prendre vachement de... Ouais, enfin un travail introspectif assez intense, mais... Je disais que j'avais vu la lettre de Rokhaya Diallo, qui s'est écrit une lettre à elle-même jeune. Et donc Aurélie avait deux types de consignes un peu. Soit on s'écrit à soi-même jeune, soit on peut l'adresser au... À l'époque, c'était à une jeune poétesse. Et puis après, on a ouvert aux jeunes poétesses.
On devait même au départ mettre un point médian dans le titre.
Ouais.
Et on s'est dit que les logiciels de libraire n'allaient pas comprendre.
Malheureusement.
On allait éviter le flop. Ouais.
Ouais, c'est ça. Je savais pas que c'était pour ça. Et du coup, ça me semble être un bel exercice de... introspectif, mais aussi dans le travail. Et je fais le point avec RERQ, c'est que Etain, quand elle nous a proposé ce projet RERQ avec Claire aussi, un peu il y a 3 ans, autour d'un festival féministe, moi, il y avait une sensation d'illégitimité assez forte. Et j'étais avec des personnes, vous dans cette équipe, écrivez beaucoup. Vraiment comme, enfin, et puis c'est votre activité, je dirais, principale quand même, l'écriture. Et moi, c'est plutôt le théâtre, et j'avais vraiment un grand complexe, mais cette invitation à accéder à des commandes régulières, à se retrouver, à créer à plusieurs, justement, et voilà. Enfin, vous m'avez offert pas mal de légitimité dans l'écriture, et du coup, c'était intéressant d'avoir cette première étape de lecture au Festival Extra, et puis dans un deuxième temps, d'un côté invité avec Claire et avec Amandine de l'Arche, que vous ayez invité plus d'autrices. Et que et qu'on se retrouve ensemble là-dedans. Je trouve qu'il y avait une super belle réponse pour moi à travers ces deux écrits. Voilà.
Je peux ajouter sur c'était très important et trop émouvant pour moi d'être là en tant que collectif et de voir qu'il y a un lettre collectif qui fait partie de cette panorama que Aurélie a créé avec le projet. Et de penser juste à cette question de qu'est-ce qu'on dirait à des personnes plus jeunes, ou qu'est-ce que ça nous a offert pour les consignes d'écriture à nous. Je crois qu'une des motivations pour se retrouver un collectif, c'était aussi un désir de se retrouver, Rebecca a parlé de légitimité, mais de aussi affronter un certain peur, surtout quand on est en train de lire des textes sexuels explicites avec un contenu green, queer, non-binaire, etc. Et qu'on voulait, je sais pas, je me souviens qu'au tout début, quand on commençait, quand je disais des scènes de sexe très crues, je rougissais comme ça, je me cachais un peu comme ça, je m'enroulais sur moi-même. Et qu'il y avait quelque chose dans le fait de le faire ensemble, et surtout d'être sur scène, entourée comme ça, dans un projet collectif, qui poussait aussi l'écriture à devenir un peu moins peur, un peu moins cachée, qui a aidé à construire une écriture, je pense, qui est plus durable et quelque chose qui marche dans une collectivité. Donc, très contente que ça soit une représentation collective aussi.
Mmh. C'est quoi votre rapport à l'écriture?
Non, en tous les cas, ça permettait de mettre en... C'était beau d'avoir un endroit pour dire ce qui nous avait mu en fait en tant que six personnes qui se sont unies, et quelle force en fait on avait trouvé là-dedans. Et c'est vrai qu'on a pris très vite, mais en fait dès le début, souvenez-vous, dès le début, la première chose qu'on a faite ensemble, c'est d'écrire un manifeste.
Oui, je sais.
Et donc là en fait c'est comme si on était revenu en fait 3 ans plus tard aussi sur des choses qu'on a vraiment affinées en fait, parce que si on reprend notre manifeste de base qui répond et tu vois, c'est un écho à ta lettre aussi, Rebecca, mais qui répond à une urgence en fait d'écrire, de se retrouver pour être ensemble, et que parce qu'effectivement l'écriture est quand même un endroit solitaire, et là en fait c'est aussi montrer que en fait ça peut venir de quelque chose collectif qui rend plus fort et plus encore plus fun et plus déjanté. Enfin, en tous les cas, ça nous a permis là de faire une sorte de bilan presque de là où on en était et de là où on allait, et vraiment on s'est vraiment affiné dans nos sensations. Enfin, cette lettre, je la trouve belle.
On n'a pas du tout répondu à la question. C'est...
Non, non, je sais.
Notre rapport. Justement, c'était pas erreur, c'était notre rapport individuel.
Mais c'est assez difficile de démêler à certains moments, en fait. Tu vois, quand nous-mêmes, on savait pas finalement. Enfin, en écrivant cette lettre-là, qui est une lettre avec plein de fragments qu'on a remanié, qu'on a recomposé, on savait pas forcément qui avait écrit quoi. Qu'on disait un peu la dernière fois, et c'était assez surprenant aussi, mais du coup, il y a un effet comme ça de contamination aussi entre nos écrits, entre nos... Enfin, nous visons aussi du monde à un certain moment, qui fait que ça devient une entité hyper étrange et hyper intéressante, en fait. Ouais.
Moi, je sais plus comment je m'appelle.
Pour te citer, Rebecca, la lecture n'est pas allée juste là, mais tu dis, tu me fais écrire dans l'urgence cette lettre sur laquelle je pleure.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Tu l'as
dit. Je te jure, je l'ai dit.
Bon, bah, j'étais
trop émue.
Oui, non, mais j'étais trop émue tes paroles. Il y a exactement cet endroit-là, en fait, parce que même si vos lettres prêtent à sourire, même si on sent énormément d'énergie, de positivisme, de sourire dans ce que vous écrivez, de passion, de choses très belles, il y a aussi en fond, en fait, quelque chose de la douleur. J'ai quand même l'impression, à des moments, des tacles, en fait. Vous parlez d'agresseurs, vous parlez de patriarcat, en tout cas, voilà, dans la lettre commune. Dans toi, ta lettre personnelle, il y a quand même quelque chose de très touchant, de se dire, en fait, que t'as envie de te prendre par la main autant que de t'envoyer de l'énergie, de te dire, mais tu vas y arriver, en fait. Moi, je crois en toi, et celle du futur croira encore plus en nous. Et donc, cet endroit-là, en fait, de j'allais dire spontanément chaud-froid, mais pas parce que, en fait, l'émotion est toujours chaude, mais ce côté très... vif, très à vif, en fait, que vous avez dans votre écriture. Vous l'avez dans tous vos travaux. Enfin, c'est quelque chose qui vous anime et qui fait vraiment votre poésie, en fait, à chacune. Ou là, particulièrement, le fait de vous adresser, comme tu en parlais aussi, Claire, à des plus jeunes, parce que c'est à vous-même, mais c'est aussi à toutes les autres jeunes poétesses. Ça aura été un moment plus exacerbé, où vous direz vraiment que cette écriture vous appartient... de l'émotion.
Moi, je pense que vraiment, j'écris avec que l'émotion, mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Mais qu'en tous les cas, oui, c'est ça
qui importe, c'est d'écrire avec ses tripes et d'une manière expérientielle de ce qu'on, ce qui nous traverse. C'est hyper bateau.
Un peu, mais c'est ok. Mais non, est-ce que t'écris comme ça d'habitude, toi?
J'écris,
est-ce que t'écris toujours un peu énervé et toujours
j'écris,
un peu...
J'écris toujours en réaction à quelque chose et j'écris toujours... Et j'aime bien écrire... Enfin, notamment, j'adore écrire la sensualité, le sexe, et j'adore écrire des textes érotiques. Et ça, c'est vraiment... Il y a... Enfin, il n'y a rien qui lie plus à la vie que la baise. Et genre, enfin, du coup, enfin, oui, moi, c'est genre ma passion.
C'est toute la réponse à la première question. Ouais. C'est trop drôle.
Je me suis dit qu'il y a peut-être un lien aussi entre le travail de Rebecca et son texte dans le livre et le texte d'Hercule dans le livre, avec le fait que Hercule est surtout un collectif qui fait des performances, des lectures en public. Des lectures, c'est des textes qui ne sont pas en général faits pour être... imprimé nécessairement. Et Rebecca, évidemment, t'as une énorme pratique de lecture en public.
Énorme, énorme. C'est énorme. Je n'arrête pas.
Et de dire qu'il y a quelque chose de différent qui se passe dans un texte qui est censé être lu, peut-être, et un texte qui a... Je pense que le projet de Ayoku a été conçu pour être quelque chose qui se passe dans les lieux publics, les bars, des espaces queer, des festivals, comme on a au début, quoi.
Mmh. Ce qui est là avec cette envie aussi de se montrer, en tout cas d'être visible, en fait, enfin, de créer aussi des représentations qu'on voyait nulle part. On est 6 personnes très différentes, avec des corps différents, enfin, et c'était important aussi de montrer notre dimension en 3D, quoi.
Mais justement... Tu notes cette différence, cette pluralité, et donc vous faites hyper attention à l'inclusivité dans vos écrits, cet endroit du queer, du non-binaire, du, c'est assez... alors même si on a de plus en plus d'essais, de textes, de paroles en fait, qui vont en ce sens, c'est pas toujours très publié en fait. On commence petit à petit à avoir des livres qui respecte cette écriture-là. Mais cet endroit du queer, entre vous, en fait, il s'installe comment dans l'écriture? Parce que donc vous ne vous genrez pas tous et toutes de la même manière. Et donc, est-ce que... Parce que, enfin, dans les mails qu'on a pu échanger pour l'organisation de cette soirée, il y a beaucoup de X qui apparaissent, beaucoup de mots. Mais c'est absolument génial. Après, moi, j'ai essayé de m'entraîner à dire à haute voix, à pas oublier les... etc. Parce qu'en fait... Et comme je le disais à Aurélie juste avant, moi, mon combat, et c'est, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, c'est que je féministe absolument tout. Mmh. Enfin, pour moi, ça va être un peu violent, mais pour moi, l'homme n'existe plus. Mais parfois, il y a des confessions comme ça. Voilà.
Il n'est pas très, très présent, sur ce sens.
Oui, voilà, en plus.
Et, elle pleut et tout.
Pardon?
Elle pleut. Est-ce qu'elle pleut ou est-ce qu'il pleut?
Ah, je ne parle pas de la pluie. Mais ce qui veut dire que, en fait, cette écriture inclusive, en fait, c'est une décision. C'est à un moment donné, c'est une radicalité, comme vous le dites dans la lettre. Et ça m'intéresse vraiment de savoir, en fait, comment vous travaillez cet équilibre-là pour que chacun, chacune se sente représenté dans son écriture, dans vraiment la langue écrite, en fait. Parce qu'à l'oral, et j'en ai bien entendu, vous êtes un collectif d'oralité, enfin, vraiment de vive voix. Mais l'écrit, comment ça passe après? Comment on s'assure que cette oralité passe par l'écrit?
Donc chacun, chacune se gère. Hein. Je suis pas sûre qu'on ait eu des grandes discussions là-dessus.
Non.
Enfin, ouais, moi,
non,
j'apprends à chaque fois des nouveaux termes. Je suis là, ok, c'est parti. Donc, je crois que ça...
Ouais, et moi, juste dans la lettre, justement, je dis que je suis contre la neutralité, du coup, le fait de faire un truc inclusif et que je préfère un truc radical ou je préfère tout féminiser ou alors laisser des trucs...
Voilà, on a des endroits différents, ouais. En fait.
Du coup, on a des endroits différents. Ouais. On se respecte.
Complètement.
Ouais.
Parce qu'on est aussi, on a des identités de genre différentes, donc je crois qu'on, c'est plutôt des choses de l'ordre de l'intime en fait quand on écrit quoi. Mais tout le monde cohabite avec beaucoup de bonheur.
C'est toute première fois. Vous ne vous souvenez pas, on était dans un bar et on discutait, on faisait un peu notre manifeste et on a longuement discuté, il me semble, autour de Autrix. Enfin, oui, on s'est retrouvé dans Autrix à la fin avec un X.
Avec un X.
Bon, c'était il y a 3 ans aussi, donc bon.
Mais non, maintenant c'est has-been quoi.
Mais c'était surtout cette question de auteur, autoriste, auteur avec un E, et juste pour le cas de toute fin, on a dit autrice avec un X, et que c'est drôle quand on fait des trucs en public parce que...
J'aime bien en truc.
Ouais, et souvent, ça fait un effet quand même verbal.
Ouais, c'est vrai, non, mais... Enfin, ça nous a convaincus,
Et quand tu dis, on est collectif d'autrix, ça... Tout de suite, ça fait passer quelque chose, généralement.
Après, l'écriture inclusive, c'est pas forcément... Enfin, là, je parle plutôt par rapport à l'écriture. Enfin, ça a été une grande question, mais c'est pas quelque chose d'automatique, en fait. Ça doit vraiment avoir un sens qui est lié au projet d'écriture, en l'occurrence, ou du personnage, ou de ce que ça raconte, quoi. Mais il y a encore plein de choses à inventer. Enfin,
ouais, t'apprends sexe, là.
T'apprends sexe avec un X. Et ça crée, en fait, des espèces de... Enfin, ça vient nourrir des imaginaires, en fait, qui n'existent pas forcément encore. Donc, on est au début de plein de choses, en fait.
Ouais. C'est un exercice littéraire.
En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ça fait aussi partie de l'histoire de la poésie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des poètes qui l'ont déjà fait il y a genre 1000 ans, parce que ça fait vraiment partie d'une histoire de déconstruction de la langue et d'expérimentation de langage et de déplacement, en fait. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est ancien dans l'histoire de la poésie.
Mais c'est ça qui est trop beau dans le fait que ce soit édité. Enfin, que ce soit édité, bon, c'est aussi un truc hyper important pour nous, parce qu'on a quand même vécu une pandémie où on s'est dit, oh mon Dieu, il faut tout éclater, tout ça, machin. C'était pas facile de se dire, on garde un collectif alors qu'on habite à Glasgow, à Berlin, à Lyon, il y en a qui ont trois gosses, il y en a qui bossent partout, on n'a pas les mêmes. Enfin, c'était pas facile de tenir, et la proposition là, que nous a fait Larche et Aurélie, elle posait dans un livre qui la légitimait, mais aussi fixait quelque chose à un moment, un arrêt sur image, de dire, bon voilà, on en est de notre expérimentation, ou on pourrait aussi faire autre chose, hein, y a pas de souci, mais voilà, on se propose de poser ça.
C'est vrai que vous nous avez fait un cadeau, hein. Bah, vous rendez pas compte, mais c'est un petit cadeau, là.
Ouais, un gros cadeau,
un gros cadeau.
Nous, là, on se retrouve, et on n'a pas aussi souvent l'occasion d'être invité à théoriser, et donc à comprendre ce qu'on est en train de fabriquer. C'est aussi le truc, le mouvement littéraire, comme un truc qui est tellement en mouvement que des fois on pourrait l'avoir arrêté avant même de l'avoir compris. Voilà, et donc là ce qui est chouette, c'est de se dire, bon bah voilà, et puis en plus il y a des rencontres, donc c'est bien, nous on apprend à... Enfin c'est bête, je voudrais pas vous redescendre le truc, mais on apprend à parler de nous-mêmes, et de comment on écrit, et de là où on en est, et de comment on écrit, comment on se construit. Parce que c'est ça, et c'est ça qui permet après de repartir sur des nouvelles choses, et de constater. Donc on a fait bien sûr des publications dans des revues, il y a les zines qui existent aussi, c'est aussi des... Mais c'est vrai que ça a du poids, un livre. Enfin, il y en a qui le savent parce qu'elles ont sorti des livres ici, ou qu'elles ont participé à des traductions, à des préfaces, à tout ça. Mais là, ensemble, voilà. Le cul, le RERQ.
Non, mais c'est assez important. Enfin, c'est un livre, c'est... Enfin, moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est que c'est quelque chose qui traverse le temps, en fait. On est à la fois dans quelque chose de passé, ça va être une archive, et c'est important que ça existe, qu'on sache qu'on a existé, à un moment donné, qu'on a fait des choses... La question de l'archive, elle est quand même assez présente depuis quelques années aussi, enfin, archive queer, etc. C'est quelque chose de présent parce qu'on y a des rencontres, et effectivement, enfin, il se passe tout le temps des choses, en fait, assez... des surprises, quoi, chaque fois qu'on rencontre les gens, et qu'on en parle. Et nous-mêmes, on s'apprend aussi des choses, on découvre des choses de nous-mêmes en même temps. Donc c'est un peu comme une thérapie de groupe.
Je savais.
Et c'est quelque chose qui est aussi lancé dans le futur. Donc il y a vraiment une espèce de... Enfin, moi j'aime bien cette idée de temporalité qui est hyper multiple avec un livre. Bon, et la préface d'Aurélie le dit de manière beaucoup plus magnifique, donc il faudra la lire. Et le temps, et je voulais dire autre chose et j'ai oublié.
C'est pas grave, l'argent, c'est pas grave. Et pour revenir à l'oralité, ce qui était ton... Donc j'étais là avec les cinq qui écrivent beaucoup plus, qui ont édité, qui écrivent vraiment pas mal, beaucoup, quoi, ou travaillent dans le milieu d'édition, ou du graphisme, ou du machin. Vraiment le livre, la publication, l'écriture. Et du coup, en fait, c'était parfait parce que l'endroit où on m'a invité de théâtre, et moi, en effet, j'écris que pour mes spectacles, donc toujours dans une vocation pas être lu. Enfin, ça commence à arriver grâce à Amandine Berger qui ne lâche pas l'affaire, mais dans une perspective d'être dit, performé surtout, enfin d'être mêlé à des actions performatives. Et du coup, il y a une chouette rencontre là. Moi, je m'attendais pas à ce qu'elle veuille. Alors, en plus, on dit lecture performée, mais c'est vrai qu'on... Enfin, c'est encore un endroit de vocabulaire avec lequel j'aimerais comprendre ce qu'on fait. Pour le moment, j'apprends qu'on lit nos textes et que parfois on fait des conneries avec. Un peu. Pas encore la performance, pas un truc de prise de risque, d'écriture en live ou de je sais pas ce que j'entendrais par performance vraiment. Mais en tout cas, la rencontre entre mon endroit de la scène et l'endroit qui est plus expérimenté de votre part de l'écriture, ça marche bien.
Bravo. Je tiens à dire que j'ai vraiment pas beaucoup dormi.
Non. Après, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec RRQ, il y a cette chose qui est assez singulière, qui est qu'on est un collectif qui s'invente au fur et à mesure. Enfin, on a effectivement écrit un manifeste au départ, et puis finalement, c'est devenu tout de suite quelque chose de très mouvant, où on nous a proposé de faire un projet ici, donc on est allé, puis on a essayé des choses, puis on n'a pas forcément tout gardé, puis ça change tout le temps en fait, donc on apprend au fur et à mesure, et je fais partie d'autres collectifs, on fonctionne pas du tout comme ça, enfin pour moi c'est vraiment très propre à nous, ouais, cette manière d'être
très désorganisé,
aussi très bordélique, très chaotique, mais dans ce chaos là il se passe des choses en fait, et ça c'est très nourrissant quoi. Ouais.
Alors juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent ou écouteront, donc en effet toute la première partie des lectures, avant de s'engager sur les lettres aux jeunes poétesses, c'était donc des fanzines que vous éditez, que vous avez publiées avec RERQ, c'est ça?
C'est plutôt des textes que chacune écrit en fait. C'est un peu de faire entendre nos
écritures. Il y a que celui que j'ai dit, moi, Pizza Porno, qui est un fanzine qu'on a fait collectivement, mais Elodie, c'est sur fanzine. Et Taïn, tu l'as mis nulle part encore ce texte?
Non, pas encore.
Voilà, mais ici, il existe dans une vidéo. On a fait des vidéos performances. On peut dire vidéo performance. Allez, des vidéos performances pendant le confinement sur le thème de libido et confinement. Et c'est très varié. C'est un texte qui est écrit là. Et toi, c'est un zine que tu as fait pour toi.
Enfin, oui, par un.
Enfin, pour toi,
pour les autres. Performance.
Voilà.
Donc, en vrai, il faut chercher sur internet pour retrouver les sources. Voilà, on va essayer de faire ce travail, promis, si vous le voyez en bas de...
Il y a un Instagram RERQ, puis ensuite il y a les Instagram de chacun, chacune. Mais c'est vrai que du coup c'est très prolifique et multiple. Mais...
Explosif. Ouais.
Pour terminer, parce que là on s'est beaucoup penché sur l'écriture, mais parce que c'est ce dont vous donnez envie que l'on parle, en fait, tout simplement, parce que vous avez... Il y a quelque chose de tellement viscéral en fait qu'on a envie de partager avec vous, de vous écouter parler de tout ça. Mais le projet, si on remonte un peu plus haut, l'être aux jeunes poétesses. C'est-à-dire que là, vous vous engagez avec ce livre, c'est vos créations, vos écritures, vers une transmission, vers des jeunes poétesses, de les accompagner. Alors certes, on avait avec toi Rebecca que tu avais choisi de te parler à toi-même. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde, enfin de toutes les lettres. Quelle est l'importance, alors c'est une fausse question, mais quelle est l'importance d'encourager les jeunes poétesses à écrire? Où est l'endroit de la bataille là?
Le monde change très 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 lentement, donc on a toujours besoin de soutien, en tant que femme, en tant que personne queer, en tant que personne racisée, enfin... Tant que cette chose-là n'est pas acquise, oui, on a encore besoin effectivement de bonnes fées, entre guillemets. Mais... Alors qu'elles se penchent sur notre berceau ou non, c'est pas forcément le cas, donc on va les chercher un peu partout en fait. Enfin, je crois que c'est un peu cette idée-là aussi de cette lettre qui a de multiples adresses, c'est qu'on va chercher en fait cette confiance-là, comment on pourrait l'appeler, confiance, je sais pas, tu parles de légitimité.
Mais c'est un peu comme la toute fin des Buffy contre les vampires.
Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague.
Ah, désolé, je sais pas comment dire sans spoiler.
Vas-y.
Bon,
c'est un
devenir poétesse de tout le monde. Il y a cette idée qu'il y a une petite graine qui touche une personne, qui ensuite vient partout. Et que le but le plus ultime, c'est que des gens lisent les textes et qu'Yael commence à écrire, je pense. Et qu'Yael produise les textes. Et qu'Yael prend confiance et fait des collectifs ensemble et que ça devient quelque chose qui grandisse et qui c'est pas autour de nous, c'est autour des autres personnes.
C'est pas vraiment dans un héritage, je sais pas comment dire, mais c'est plus de dire on peut le faire, donc, et de voir en fait des personnes le faire, ça donne envie de le faire et ça donne une possible en fait, ça ouvre une possibilité, c'est possible quoi. Donc j'ai l'impression que c'est plus une espèce de travail de... Enfin, j'arriverai pas trop à le qualifier, mais la notion de transmission, elle est toujours un peu compliquée.
Mais je trouve que la lettre, cette lettre, Rebecca, que tu t'écris, c'est en t'adressant à toi, du coup, tu la rends la plus universelle possible. Et donc, moi, ça m'a trop touchée. j'ai eu l'impression que tu t'adressais. Genre, moi, c'est genre vraiment. Je pense qu'il y a une volonté. C'est ça, parce que la légitimité, en fait, avec l'écriture en France, notamment avec la poésie, si tu commences. Enfin. La poésie, elle vient pas à toi parce que c'est pas un truc populaire, c'est vraiment un truc élitiste. Et du coup, quand tu viens d'un milieu en France, bien sûr, en France, genre si tu vas outre-Atlantique, c'est différent. C'est, t'as des exemples, Et tu vois des lectures publiques, mais genre, par exemple ici quand même, genre c'est quand même un truc qui est cadenassé. Genre quand t'es à l'école, on te donne Jacques Prévert. Enfin, tu vois, ça te parle pas du tout. Et tu t'en branles tellement. Et genre on le donne encore aux enfants maintenant. Tu vois des vieux mecs blancs qui te et ça te. Enfin, et comment toi tu veux te sentir légitime à écrire de la poésie ou juste à penser à en écrire en fait. Et du coup c'est enfin ça parle, mais le livre parle beaucoup de ça de toute façon. C'est comment tu en viens, comment y a... enfin, c'est toujours une rencontre qui fait que tu vas te mettre à écrire ou tu vas te dire que c'est possible. Et du coup, bah, c'est trop bien, par exemple, de venir faire de tournées comme ça. Ou de, enfin, ouais, la dernière fois, à la Petite Égypte à Paris, il y a une jeune fille qui est venue avec les larmes aux yeux. Et genre, ça, c'est trop puissant, quoi. C'est trop puissant, ouais.
Je pense qu'on pourrait se dire que la poésie, le sexe et l'intime vont changer le monde. Mmh. On peut, mais si on voulait faire une sorte de...
Et la bouffe aussi, pardon. Sauf
votre respect. J'ai vraiment pensé en me disant que j'arriverais jamais à m'adresser à machin, mais je sais très bien, pour avoir fait, là, pour mon prochain spectacle sur Carte Noire, j'ai rencontré près de 50 ou 60 artistes noirs, plutôt femmes ou personnes non-binaires. Et du coup, je voyais bien qu'on avait un peu comme le projet Ouvrir la voie d'Amandine Gay, le documentaire. Elle choisit 24 ouais. personnes afrodescendantes pour faire un entretien. Et puis, tu te sens forcément concernée alors ouais. qu'on n'a pas la même classe sociale et tout. Bon. Et là, je me suis dit, bon, c'est comme ce que j'écris aussi. La chose avec laquelle je suis la plus experte, c'est moi-même. Comme ça, je ne me gourre pas. Et par contre, je sais très bien que mon intime, voilà, est politique. Et que, ouais. et qu'en rentrant, plus je rentrerai dans le détail de moi-même et plus ouais. je fouillerai, plus peut-être quelqu'un d'autre y pourra. Voilà. Quelqu'un d'autre pourra faire sa transition, mais ça, le parallèle, quoi. Donc c'était, ouais. je me suis dit, bon, voilà, comme ça, pas d'erreur, parce que si je commence à partir un truc emphatique ou quoi, j'allais me perdre, et on était déjà beaucoup perdus à cette période, donc...
non, mais tu sens, ça, ouais.
Ouais. Bien, merci beaucoup pour ce superbe moment, ces magnifiques lectures, c'était parfait. Merci Aurélie pour ce super projet. On l'attendait ce livre, on l'a et maintenant on le diffuse, tout le monde doit le lire, donc voilà, distribuer. Enfin, non mais c'est ça en fait, un livre à partir du moment où il existe, c'est le moment en fait de le partager au maximum, c'est comme ça où les rencontres inattendues arrivent en fait, et où des personnes qui ne se seraient jamais dit poétesse pourraient le devenir, tout simplement. Merci à l'Arche et on peut s'applaudir.
Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un épisode de La Franchie Podcast en compagnie du collectif RERQ à l'occasion de la parution du sublime ouvrage Lettres aux jeunes poétesses aux éditions de l'Arche. Nous avons reçu Etta Inzwer, Elodie Petit, Rebecca Chaillon et Claire Finch. Étaient présentes également la sublime, phénoménale, incroyable Aurélie Olivier, qui est à l'origine de ce projet, qui l'a concocté, façonné, présenté, proposé, qui en a eu l'idée aussi, juste, simplement. Merci à elle pour tout son travail, notamment au sein de l'association Littérature, etc., que nous accompagnons toujours avec joie. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. No, don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I tell you what I want, what I really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zigzag. Oh.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.